rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue à Rome où nous avons posé nos micros. L'Italie a été l'un des premiers pays touchés par le Covid et l'un des plus meurtris. Mais aujourd'hui, ici comme partout en Europe, la vie reprend tout doucement. Les terrasses des cafés retrouvent leurs habitués et sur la place du peuple, la Piazza del Popolo de Rome, eh bien des écrans géants ont été installés afin que les tifosi puissent suivre en direct les matchs de l'Euro 2021. La pandémie a-t-elle changé les Italiens ? Sont-ils avides de retrouver leurs habitudes d'avant ou au contraire, le coronavirus les a-t-il marqués durablement ? L'Italie est en tout cas le premier pays bénéficiaire du plan de relance européen. Plus de 220 milliards d'euros vont irriguer l'économie et l'administration italienne, de quoi redonner confiance en l'Union européenne. Mais en échange, le gouvernement de Mario Draghi s'est engagé à réaliser un objectif sans cesse repoussé depuis des décennies, réformer enfin le pays. Sur le plan politique, justement, en moins de 2 ans, l'Italie a connu un virage à 180 degrés en passant du gouvernement populiste d'extrême droite et anti-européen soutenu par Matteo Salvini à celui de Mario Draghi, très européen, et paradoxalement soutenu par la presque totalité des partis politiques. Plus que jamais, l'Italie mérite son label de laboratoire politique de l'Europe. En attendant le retour des touristes, entre espoir et incertitude, l'Italie, un pays en suspens. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints et d'abord le premier d'entre eux qui nous accueille dans sa villa. Bonjour Sam Sturze.
Bonjour.
Vous êtes, je dis votre villa, c'est peut-être un peu exagéré car vous n'en êtes pas le propriétaire, pas vraiment.
Napoléon l'a acheté en 1803. Moi, je suis que le simple locataire pendant quelques années de ce lieu, lieu magique, belle villa Renaissance sur l'une des 7 collines de Rome.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Villa Médicis, et ils sont relativement nombreux parmi nos auditeurs, comment se fait-il que Napoléon un jour a acheté cette villa magnifique, immense, hein, des milliers de mètres carrés, j'ai l'impression, un jardin gigantesque. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors oui, peut-être petite présentation rapide des lieux. Les mètres carrés de cette villa, je ne les connais pas exactement. Ils se comptent en plusieurs milliers. Les hectares du jardin, ils sont au nombre de 7. 7 hectares de jardin au cœur de Rome. C'est assez magique. C'est les Médicis, hein, grande famille de mécènes. C'est Ferdinand, celui-ci. Qui acheta la villa. On est dans le pur style Renaissance et il l'a acheté pour y installer sa collection, une sublime collection de sculptures antiques. Aujourd'hui, la Villa Médicis, c'est le siège d'une autre institution dont parfois on mélange un peu les deux destinées. Villa Médicis, c'est le siège de l'Académie de France à Rome. L'Académie de France à Rome, elle accueille des artistes, elle, depuis 350 ans. Elle n'a pas toujours été à la Villa Médicis, elle a été dans un autre palais un peu plus tôt. Et puis, par l'achat de Napoléon, l'Académie de France s'installe au début du 19e siècle à la Villa Médicis et depuis accueille des artistes. Chaque année passe pour des résidences longues ou courtes une cinquantaine d'artistes qui viennent travailler ici. Je dis artistes, en fait, pour être tout à fait exact, il faudrait dire créateurs parce qu'on n'a pas que des artistes, on a des compositeurs, des musiciens, des écrivains, des historiens de l'art, des restaurateurs. Toutes les disciplines se côtoient ici. 16 d'entre eux passent un an, ils sont logés, ils sont rémunérés plutôt correctement. Ils ne sont pas forcément français, ils sont francophones et ils viennent d'à peu près partout. Alors, beaucoup de France, mais dans la promotion de cette année, on a une compositrice japonaise, un compositeur argentin, un photographe congolais. L'année prochaine, on aura un espagnol, une tunisienne, un algérien.
Alors, il y a évidemment une question qui s'impose. Comment peut-on devenir pensionnaire de la Villa Médicis ? Alors, Villa Médicis en français, Medici en italien.
Absolument. Villa Medici, Accademia di Francia, Académie de France. En postulant, on devient pensionnaire. Ils sont 600 chaque année à postuler pour 16 places qui leur donnera un sésame pour un séjour d'une année. Finalement, si quand Colbert a voulu la création de ce lieu et que Louis XIV l'a rendu possible, à l'époque, il s'agissait de venir à Rome copier l'antique et envoyer en France le résultat de ces copies pour former les jeunes générations. C'est une époque où ni les écrans ni la photographie ne permettaient de diffuser l'art. La copie était bien utile. On devenait, en passant 3 ou 4 ans à la Villa Médicis, un artiste officiel. C'était l'académie et on avait la garantie ensuite d'un certain nombre de commandes de l'État. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Les artistes n'aimeraient pas cette idée d'être les artistes officiels de l'État. Pour autant, on est bien une résidence d'État, une résidence publique, et seul un État peut financer un temps de recherche désintéressé. Ici, ça n'est pas une résidence de production, c'est une résidence de recherche et création et de réflexion. On ne demande pas aux artistes de venir produire une œuvre, mais on les laisse chercher, s'égarer, parfois se renourrir pendant pour les 5 ou 10 années à venir.
Et nous sommes installés dans le salon de musique, c'est un des nombreux salons de cette Villa Médicis, Medici en italien, et je vous présente les autres invités qui nous ont rejoints. Bonjour Emma Bonino.
Bonjour.
Vous êtes ancienne ministre des Affaires étrangères, ancienne commissaire européen et sénateur. Alors, sénateur ou sénatrice?
Non, moi je préfère sénateur, en particulier Madame le Sénateur.
Donc, je vais vous appeler Madame le Sénateur pendant l'émission.
Moi.
D'accord. Giuseppe Laterza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président des éditions Laterza, une grande et vieille maison d'édition italienne.
Merci pour les grandes, mais petite.
Alors, grande par son catalogue, grande par l'importance qu'elle a en Italie.
Double merci.
Alors, si je devais vous comparer à un point de repère français, je dirais, vous êtes Giuseppe Gallimard, par exemple, je pourrais dire ça, l'équivalent.
Bon, il y a plusieurs maisons avec lesquelles on a des forts liens historiquement, comme Gallimard sûrement, mais aussi l'édition du Seuil, Fayard, Flammarion, disons, sont des maisons comparables, mais peut-être plus grands que nous, mais qui font des livres semblables.
De qualité.
Bon, des qualités, c'est les lecteurs qui ont à juger.
Je sens une grande humilité du président des éditions Laterza. Fabrizio Grifasi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général et le directeur artistique de la Fondation Roma Europa. Alors, quand on dit Fondation Roma Europa, on a l'impression que c'est un think tank, comme on dit en français, que vous réfléchissez sur la marche de l'Europe. Est-ce qu'il faut qu'elle soit plus fédéraliste ou moins? Voilà, quel est l'avenir de l'Europe? C'est pas du tout ça.
En partie, c'est ça, mais on le fait à travers les œuvres et les yeux des artistes, parce qu'on organise chaque année un festival pendant 2 mois et demi à Rome, de mi-septembre à mi-novembre, entre autres à la Villa Médicis, parce que c'est à la Villa Médicis qui est né le festival il y a 36 ans, et un festival de musique, de danse, de théâtre, d'art numérique, avec des artistes de toute l'Europe et avec des artistes de tout le monde, qui donc réfléchissent aussi et nous racontent notre temps, notre Europe, notre monde.
Et pour clore ce tour de table, bonjour Eric Joseph.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de Libération en Italie, et j'ai l'habitude de vous présenter comme le plus italien des Français de Rome. C'est un peu ça, hein?
Oh, je le confesse, oui.
Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International, le partenaire de Carrefour de l'Europe, ce dimanche avec Beniamino Morante. Alors, Sam Stonze, je disais en introduction que la vie reprenait tout doucement en Italie, et la Villa Medici, accompagne elle aussi cette renaissance. Vous venez d'inaugurer, d'ouvrir l'exposition annuelle des pensionnaires de la Villa. Alors, ils ne sont pas obligés de produire, mais de temps en temps, ils produisent quelque chose tout de même.
Une fois par an, à la fin de leur séjour, il nous paraît important de partager avec le public romain. Nous sommes finalement un centre culturel international dont le public est romain avant tout, de partager avec ce public la création de ces pensionnaires. C'est l'Expo Eco qui a ouvert il y a quelques jours.
Eco en italien, ça se dit?
Voilà, Eco.
Voilà.
On revit, c'est un peu l'idée.
Voilà, on revit, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui peut être vu. Et puis en jouant aussi d'un point de vue phonétique sur cet écho qui pourrait être entendu en français comme une voix qui résonne à nouveau, une voix qui vous répond.
Et qui, par les ondes de Radio France Internationale, va sur les 5 continents. Donc un écho planétaire. 10 mois donc d'une vie entre parenthèses, entre couvre-feu, interdictions diverses et contraintes omniprésentes, sans oublier les décès. 127 000 Italiens ont perdu la vie pendant la pandémie. Alors, le Covid a-t-il changé les Italiens? Et je suis envie de vous poser cette question à vous, Emma Bonino. Est-ce que les Italiens ont changé avec cette pandémie? Ou pas?
À mon avis, c'est un peu trop tôt pour le dire. Parce que nous avons vécu cette dernière année dans un état un peu de confusion, de peur, un peu de confusion scientifique, disons, qui n'a, disons, les débats entre scientifiques n'ont pas aidé beaucoup. Donc, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des aspects négatifs. Les gens étaient fermé à la maison pour assez longtemps. Vous imaginez une famille avec 2 gosses et les parents en 70 mètres carrés, 24 heures par jour. Il faut une capacité de discipline pour survivre, disons. Et donc, cette année a changé certainement la vie des Italiens. Si va être un changement structurel, où c'est seulement une parenthèse et après on revient, je suis pas doué, je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire.
Éric Joseph, vous qui êtes, je vais dire, le plus italien des Français ou le plus français des Italiens, c'est selon, est-ce que vous avez remarqué chez les Italiens, en tout cas chez les Romains, des évolutions notoires dans leur comportement, dans leur façon de vivre la vie? Alors c'est vrai, comme le dit Emma Bonino, voilà, on réapprend à vivre, donc peut-être qu'on manque un peu d'expérience, de recul, mais est-ce qu'il y a déjà des tendances, des choses un peu différentes? Au contraire, les Italiens ont envie de revenir très rapidement au monde d'avant et d'oublier cette pandémie.
On peut dire que les Italiens, en tout cas, ont été les premiers à prendre au sérieux la pandémie. Ils ont été très touchés au départ et ils ont eu le courage de prendre des mesures radicales très rapidement. Alors que le reste de l'Europe regardait un peu avec défiance la vague épidémique. Et que, au début, on avait un peu le sentiment que c'était pour certains, un problème italien, un problème de structure sanitaire. Les Italiens ont très rapidement compris la gravité de la situation et ont pris des mesures radicales, et notamment le confinement, qui a été très, très radical dès le départ. Et donc, il y a eu cette prise de conscience, cette solidarité italienne. Et puis, il y a eu, évidemment, désormais, aujourd'hui, à l'issue de cette année extrêmement difficile, il y a une volonté de repartir. Je crois d'ailleurs que c'est un peu commun à toutes les sociétés. Mais elle est particulièrement forte en Italie, avec évidemment une interrogation sur les conséquences dans les prochains mois, notamment les conséquences sociales. On voit notamment que dans les milieux syndicaux, il y a une grande préoccupation sur les conséquences. Et donc on est, comme vous le disiez, une sorte de temps suspendu en ce moment, une volonté de repartir et en même temps une interrogation sur les prochains mois. Et donc il y a une double attitude, je crois. Il y a une attitude de d'euphorie pour cette réouverture et en même temps d'inquiétude un peu latente sur les prochains mois.
Fabrizio Grifazzi, est-ce que vous diriez que les Italiens ont perdu un peu de leur insouciance?
Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a sûrement un sens de responsabilité qui est très fort, qui a traversé l'ensemble du pays, pour les raisons qu'Éric Joseph a très très bien expliquées en ce moment. Nous, on a eu un taux de mortalité très grand. On a vécu une série de confinements d'une façon très stricte. Cela a touché l'ensemble de la population. Dans le même temps, c'est vrai aussi que probablement, quand on parle des Italiens, quand on parle des sociétés du monde, on doit aussi faire un peu des différences. Il y a chez les jeunes un désir très très fort de pouvoir se retrouver. On voit que les places sont pleines, les bars sont pleines. Je pense qu'ils ont raison. C'est pour ça qu'il faut les vacciner tout de suite. C'est normal qu'il y ait un désir. Probablement, dans notre couche d'âge, il y a aussi une tension, une timeur à reprendre. En général, moi, je pense que nous tous, nous portons dans nous la sensation d'avoir vécu quelque chose qu'on n'imaginait pas. Nous repensons à le rapport avec la nature, nous repensons à le rapport avec l'autre, nous sommes été coupés des autres. Et tout ça, c'est des choses très fortes, très important, que probablement on n'a pas encore évalué en termes de contre-coup sous nos vies.
Giuseppe Laterza, tous les éditeurs en Europe ont évidemment eu très peur de cette pandémie, les librairies ont été fermées, etc. Et puis assez rapidement, je crois que c'est un peu partout en Europe, eh bien les Européens ont semblait-il retrouvé le plaisir de lire, et finalement les éditeurs en Europe ont eu une année de 2020 pas si mauvaise que ça. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour vous en Italie? Est-ce que les Italiens ont redécouvert le plaisir de lire et quelque part de redécouvrir les choses importantes?
Oui, le lecteur sont augmentés. Et les livres vendus, les livres lus pendant le 2020, en toute l'Europe, pas seulement en Italie, sont été plus que l'année précédente. J'espère que ça répond à deux besoins. La première chose, c'est de comprendre la réalité qui change et qui nécessite un regard plus profond que ce que le média chaque jour donne. L'autre, un besoin d'imagination. Quand le monde change, on doit imaginer un monde nouveau. Et même si Jacques Le Goff, un grand historien qui a dirigé une collection européenne chez nous a appris que le vrai changement sont dans la longue durée, mais c'est vrai que certaines fois, Le Goff même nous enseigne qu'il y a des fractures dans l'histoire. Alors peut-être, même si c'est un peu tôt pour le juger, comme l'avait dit Emma Bonine, on existe, on vit une fracture. Et là, je crois, on doit imaginer un monde différent, meilleur, et les livres servent à ça.
Si l'année 2021 ressemble à l'année 2020, si on redécouvre le plaisir de lire, si on fait fonctionner un petit peu son imagination, ça devrait être une bonne année, alors.
Ça dépend des écrivains et des éditeurs, parce que les gens ne lisent n'importe quoi. S'il y aura de bons romans, s'il y aura de bons essais, des essais qui vont imaginer la réalité d'ici à quelques années. Le problème vous avez en Europe, en particulier en Italie, est que notre classe dirigeante se promène regardant jour par jour. On a un déficit de regard à long terme. Alors, j'espère qu'ils vont acquérir ce regard, parce que si on doit dépendre de l'argent européen, ça va avoir des conséquences, pas seulement demain ou après-demain, mais dans les prochaines 10 années. Alors, on doit faire une planning, on doit faire une imagination de comment notre vie changera. Et alors, pour ça, c'est très important de s'informer et encore plus de raisonner sur notre futur, le projeter ensemble. On doit avoir l'espoir, ce qui n'est pas évident, de pouvoir changer la réalité collectivement.
Éric Joseph, j'ai l'impression que vous vouliez réagir à ce que vient de dire Giuseppe Laterza.
Plus que réagir, je voulais effectivement, en quelque sorte, confirmer un peu ce que disait Giuseppe Laterza, en disant je crois que si on réfléchit un peu sur les travers, sur les retards peut-être de l'Italie, je pense que l'Italie, dans les 20, 25, 30 dernières années, a eu une difficulté à prendre en compte et à s'adapter au changement du monde. La pandémie, en quelque sorte, qui est mondiale, a obligé l'Italie à prendre en considération cet aspect mondial et qu'il y a un changement du monde. Ça a été une sorte de révélateur. Alors la question, c'est de savoir si ça va être ce révélateur va pousser, en quelque sorte, les Italiens à se dire, bien, il faut s'adapter à la nouvelle donne du monde en termes de, économique, en termes de changement climatique, en termes de migration, et qu'il faut moderniser le pays, s'adapter, et qu'on a, des atouts pour s'adapter, parce que l'Italie a d'énormes atouts, notamment les entrepreneurs du nord de l'Italie qui exportent et qui, eux, ont bien compris l'intérêt du changement et de la mondialisation, ou bien on va avoir un repli ultérieur. Et donc on est un peu dans ce moment où on ne sait pas exactement, mais en tout cas, cette pandémie peut être un moment où de révélateur, un turning point, un moment crucial où effectivement l'Italie se redéfinit en quelque sorte par rapport au monde, par rapport à l'extérieur.
Ça me semble, vous vouliez réagir pour prolonger, hein, je m'inscris dans tout ce qui a été dit, et vous aviez parlé de laboratoire de l'Europe dans votre édito. D'un point de vue culturel, on assiste aussi à ce grand enjeu qui se jouera les 10 prochaines années. Rome a fait les frais depuis 20 ans du tourisme de masse, du voyage low cost et de Airbnb. On voit une désertion depuis plusieurs mois de tous ces appartements qui était en location temporaire. Les prix de l'immobilier locatif s'effondrent à Rome, et des nouvelles populations arrivent. Beaucoup plus d'artistes viennent s'installer à Rome. Il va se jouer ici, dans les 10 prochaines années, l'invention d'un autre rapport aussi à la culture et au tourisme de masse, dans un sens ou dans un autre. On le verra.
Pour découvrir une conséquence relativement inattendue du Covid, nous allons faire un petit détour par Paris, où nous rejoignons la rédaction du Courrier International. Bonjour Beniamino Morante. Conséquence du Covid, le taux de natalité en Italie a encore baissé. Et vous allez nous décrypter, Beniamino, une analyse du site d'information L'Inchiesta, très inquiétante pour l'avenir du pays.
Tout à fait, Daniel. Ou alors, en quelque sorte, si l'on veut, il s'agit bien d'un virus, mais d'un virus bien particulier, hein, parce que ce sera le virus, en fait, de la chute de la natalité, on peut dire. Alors, bon, c'est un problème dont on a déjà parlé, qui est assez connu. En Italie, on ne fait plus assez d'enfants. Ça, c'est un constat qui existe depuis très longtemps. Mais dans les deux premiers mois de 2021, en fait, on a eu les nouveaux chiffres qui sont arrivés, et la chute de la démographie, elle est plus importante que jamais, parce qu'on est de l'ordre de moins 10% par rapport à l'année précédente. Ça, en fait, ce sont les premiers chiffres qui ressortent de l'impact de la pandémie, et ils ouvrent la voie, annonce l'Inchiesta, à des scénarios qu'on pourrait définir de terrifiants. Alors, accrochez-vous bien, hein. Cette année, le taux de fécondité en Italie, il risque d'être de 1,2 enfants par femme. Et même si celui-ci remontait à 1,5 enfants dans les années à venir, en fait, la population, elle commencerait à décroître de façon très forte. Et en 2080, le pays pourrait compter environ 25 millions d'habitants. Pour rappel, là, on est à 60 millions aujourd'hui. Les conséquences sur la société, elles sont terribles, hein, comme l'annonce l'Inchiesta. Il y a quand même une bonne nouvelle apparente seulement, c'est qu'avec les retraites massives qui vont venir dans les années à venir, non remplacées par des nouveau-nés, donc, le taux de chômage, il devrait baisser radicalement. Mais en fait, ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, nous explique le site d'information, parce que la situation, c'est qu'il y aura un excès de travailleurs surqualifiés qui ne trouveront pas d'emploi à leur goût, mais pas assez d'Italiens pour couvrir les travaux les plus humbles. Donc la conséquence, c'est que l'immigration deviendra une nécessité absolue pour le pays. Un autre problème annoncé par l'Inchiesta, c'est qu'il y aura trop de logements disponibles, tout d'un coup, et donc la valeur de l'immobilier s'effondrera, et des familles entières auront leur patrimoine ruiné, leur patrimoine immobilier. Le tout sans parler de la dette, bien sûr, que les générations futures, donc inexistantes, ne pourront plus payer. Donc, en fin de compte, une saison de tension sociale exacerbée s'annonce, prédit l'Inchiesta, mais l'Italie, elle peut se rassurer, car elle n'est pas le seul pays qui devrait faire face à ce problème.
Merci, Beniamino Morante, Courrier International et docourrierinternational.com, le site. Emma Bonino, cette analyse un peu rapide de l'Italie de demain, elle est assez inquiétante. Un pays qui passerait de 60 millions d'habitants aujourd'hui à 25 dans quelques dizaines d'années, c'est évidemment un pays qui risque l'effondrement.
Mais pour le moment, le problème, c'est qu'à part la France et l'Hollande, disons, la chute démographique, c'est appartient à l'Europe. Hein? Nous sommes, à part certaines exceptions qui viennent de loin, de politiques différentes, un continent qui devient toujours plus vieux, hein? Où la chute des naissances est évidente. Et en plus, on a une fuite des jeunes très importante à la recherche d'autres opportunités de travail ou de vie ailleurs. Possiblement en Europe, mais ailleurs, disons. Et c'est un peu l'esprit des Italiens. Les Italiens ont toujours émigré. On l'a oublié, on veut l'oublier, et on raconte des blagues, mais les Italiens sont un peuple qui réagit aux difficultés. Ça dépend aussi de la leadership qu'ils ont, ça c'est évident. Mais ce n'est pas des gens apathiques, hein, en général. Et même, par exemple, je suis très contente que la lecture est revenue sur la table, parce que j'en avais vraiment marre des clics et tweets et Instagram et je ne sais pas quoi d'autre, avec les enfants qui ne savent plus écrire à la main. Et pour moi, c'est une perte énorme. Quelqu'un m'a expliqué, quand j'étais plus jeune, qu'écrire à la main, ça donne plus une capacité de réflexion. C'est pas de taper sur un clavier. Et ça, je pense que ça va nous aider à reprendre une vie. Mais, en plus, j'ajoute, pas seulement tout ça, mais c'est vrai que la condition féminine en Italie est aussi désespérée pour manque de services et de soutien aux femmes. Donc, on ne fait pas d'enfants par insécurité. Et d'ailleurs, c'est comme ça, hein, même les pays pauvres, ils ne sont pas pauvres parce qu'ils font d'enfants. Ils font d'enfants parce qu'ils sont pauvres. Donc, mais je pense qu'il faut faire le maximum pour interrompre cette tendance, parce que ça me préoccupe d'un pays et d'un continent qui devient toujours plus vieux et donc aussi plus conservateur, de toute évidence, et avec une difficulté d'accepter les divers. Remarquez, nous n'avons jamais eu un empire, hein, sinon une farce d'empire. Donc, nous n'avons pas la tradition française qui, évidemment, avait plus d'ouverture sur ça. Ma maman me disait toujours, j'ai jamais vu un noir de ma vie. Hein? Nous sommes un pays d'émigration et tout à coup, on se retrouvait un pays d'immigration, sans préparation culturelle, sans une leadership qui nous expliquerait comment ça se passe. Et pour finir, non, il faut renvoyer tout le monde, il faut des murs, il faut toutes des blagues absurdes, parce que les gens, depuis le début de l'humanité, bougent pour des raisons quelconques, mais ils ne sont pas des arbres avec les racines, ils sont des poissons. Donc tout ça, c'est une illusion. Et moi, je pense qu'il faut mettre les efforts pour réglementer ce dossier qui ne va pas disparaître simplement parce qu'ils ne sont pas sympas.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Rome, à la Villa Médicis, à la Villa Medici, hein, dans le salon de musique, en compagnie de Sam Sturze, le directeur de la Villa Médicis, avec Emma Bonino, ancienne ministre des Affaires étrangères, ancienne commissaire européenne, et aujourd'hui, Madame le Sénateur, avec Giuseppe Laterza, président des éditions Laterza, avec Fabrizio Grifadi, directeur général et directeur artistique de la Fondation Roma Europa, et avec Eric Joseph, journaliste et correspondant de Libération en Italie. Alors, Emma Bonino a parlé de migration. L'Italie est traditionnellement un pays d'émigration et soudain, le pays est devenu, ces 20 dernières années, peut-être un grand pays d'immigration. Qu'est-ce que ça change fondamentalement, Giuseppe Laterza?
Bon, ça dépend de nous. Moi, je ne suis pas préoccupé d'une Italie africaine. Peut-être il y aura aussi une Afrique plus italienne, ou on doit dire plus européenne. Je crois que si on se considère, et ça c'est la culture de l'Europe, nous a dit Zygmunt Bauman, qui est un grand auteur européen, nous a dit ça. Si c'est une culture de droit universel, pourquoi on serait préoccupé de garder quoi? Notre sang, notre tradition que se considère immobile, ou la capacité de changement qui est typique de l'Europe, de accueillance. Alors moi, je crois que nous, on est intéressés à poursuivre notre dialogue, L'Europe, c'est un dialogue. Et ça, ce dialogue vient avec l'Afrique ou avec l'Asie, pourquoi pas. Ça dépend de nous de garder dans ce dialogue des valeurs fondamentales de liberté, de respect des citoyens, de droits universels qui sont forts dans notre pays. Mais s'il y aura 20 millions d'Italiens et 20 millions d'Africains qui vivent ensemble au nom de la Constitution républicaine, moi je suis content.
Fabrizio Grifani, comment vous avez envie de réagir aux propos et d'Emma Bonino et de Giuseppe Laterza?
C'est magnifique ce que vient de dire M. Laterza, bien entendu. Comment on ne peut pas être d'accord avec ce que dit M. Laterza? C'est, comment dire, l'évidence même. Après, les choses, bien entendu, sont un tout petit peu plus compliquées parce que l'Italie, déjà, a un peu du mal à intégrer une immigration qui n'est pas si excessive. Quand on se promène par les rues de Rome, c'est pas exactement, on n'a pas la même aperçu de quand on se promène par les rues de Paris, en termes de provenance différente. Et je ne parle pas des touristes. Donc, ça signifie que déjà, nous avons fait dans les dernières années, ou certains ont fait dans les dernières années, d'où la question de l'immigration, un problème un peu plus grand de ce qu'il effectivement il est. Après, nous, comme État, on excompte de toute façon dans l'immigration, comme dans des autres domaines sociaux, un retard en termes de services sociaux, en termes de capacité d'intégrer, en termes de capacité de compréhension et d'abord de compréhension culturelle. Parce que l'autre qui arrive est porteur d'une culture, est porteur d'un vécu, qui donc a besoin d'être accepté, compris, dialogué, et entre-temps, il doit comprendre les valeurs qui sont nos valeurs républicaines. Donc,
pas seulement je suis d'accord, mais le problème réel, c'est des dernières années, que toute une espèce de leader politique, etc., etc., ont soufflé sur le faux, sur le feu, et... avec des fake news, comment vous dites en français?
On dit fake news en français.
Vraiment.
Mais c'est vrai
répétez,
ce que vous dites.
Chaque
nous a
fois,
fait beaucoup de mal.
Chaque jour, chaque télévision, chaque journal télévisé, c'était une obsession. L'invasion, hein, vous vous rappelez quand on parlait d'invasion? Et il y avait très peu de voix qui essayaient de dire, écoutez, calmez-vous, c'est un problème, mais ce n'est pas la guerre mondiale.
L'immigration, c'est évidemment un thème central des politiciens italiens, avec évidemment l'Europe, et on va y venir en dire un petit mot forcément rapidement.
Oui, absolument, mais comme disait Emma Bonino, c'est parce qu'aussi il y a une instrumentalisation du phénomène migratoire. Alors le phénomène migratoire, il est réel en Italie, c'est-à-dire que c'est quand même, il y a eu des années où il y avait une centaine de milliers de migrants, mais par rapport aux 60 millions d'habitants, et sachant en plus qu'une bonne partie des migrants qui débarquent à Lampedusa ou sur les côtes méridionales de l'Italie ne restent pas en Italie, globalement c'est un chiffre véritablement, je ne veux pas dire modeste, mais c'est un chiffre gérable. Le vrai problème, c'est que ça renvoie à la crise d'identité de l'Italie. Et c'est vrai pour l'Italie comme d'autres pays. C'est-à-dire que on a en quelque sorte la sensation à travers l'immigration, à travers ces bateaux chargés de personnes, souvent qui viennent d'Afrique, qui sont entassées, on a l'impression qu'il y a un changement du monde et qu'on n'arrive plus à le gérer. Et donc c'est facile pour les partis souverainistes de dire, bah écoutez, la solution c'est de revenir à un monde ancien qui ne reviendra pas, où on ferme les frontières et où on protégera l'Italie telle qu'on l'a connue. Mais en fait, je pense que c'est vraiment une question plus il faudrait que nos sociétés européennes fassent des introspections pour qu'elles ouvrent des nouveaux horizons, qu'elles reprennent confiance en elles-mêmes en ayant un projet justement pour se dire, on va réussir à gérer les changements du monde, à maîtriser les changements du capitalisme, à maîtriser les changements climatiques, à canaliser les phénomènes migratoires. Mais c'est une vraie question de crise d'identité plus que de véritables problèmes migratoires.
Alors, crise d'identité, évidemment, ça nous amène tout doucement sur l'Europe. Traditionnellement, l'Italie est un pays très européen. Au début de la crise, les Italiens ont un peu douté de la solidarité des Européens et des différents pays de l'Union européenne, avec une course au masque, une course des fermetures de frontières en ordre dispersé. Et puis, soudain, il y a eu la politique de vaccination. Elle est communautaire et pratiquement tous les pays européens aujourd'hui sont vaccinés, en tout cas une première dose. Un Européen sur deux, pratiquement, a reçu une première dose d'un vaccin. Et puis, il y a eu ce plan de relance de 750 milliards d'euros, dont l'Italie va être le premier bénéficiaire avec un peu plus de 220 milliards. Est-ce que ça a changé le regard des Italiens sur l'Europe, même s'ils ont été un peu, à un moment, désappointés, Éric Joseph?
Oui, bien sûr, considérablement. Évidemment, lorsque vous êtes en difficulté, vous êtes en crise économique, vous avez peur du chômage, que vous avez peur de perdre votre emploi, de devoir fermer votre activité. L'idée que l'Europe va venir vous aider avec justement ce plan Next Generation EU, c'est plus de 200 milliards, mais également déjà durant la crise avec l'intervention de la Banque Centrale Européenne qui a racheté de la dette italienne et qui a permis à l'Italie, et pas seulement, d'affronter financièrement la crise. Évidemment qu'il y a une reprise de confiance dans l'Europe. Reste à voir si le plan européen sera suffisant. Si les perdants de cette reprise, eh bien, ne vont pas se dire, on nous a promis que l'Europe allait nous sauver, et puis il y a certains qui vont sans doute rester au bord de la route. Et puis la question, c'est après, est-ce que cette aide, cette intervention de l'Europe ne sera pas seulement conjoncturelle, mais sera vraiment structurelle, et que dans les prochaines années, on aura véritablement une politique économique beaucoup plus fédérale et beaucoup plus globale pour affronter la reprise et d'éventuelles autres crises.
Alors, Giuseppe Laterna, cette aide européenne, sous forme de subvention en grande partie et de prêt à très faible taux dans un deuxième temps, elle va être conditionnée à des réformes que le gouvernement italien et l'Italie vont devoir mener. Or, il paraît que l'Italie est irréformable.
Mais non, c'est pas vrai. Les Italiens sont très adaptables. La question, c'est une question très simple. C'est-à-dire qu'on vient d'apprendre, les Européens viennent d'apprendre, qu'une union économique n'est pas possible sans une vraie union politique. On est un peu en retard, parce qu'en effet, une union politique, ce n'est pas possible sans une union culturelle. Alors, l'union culturelle n'implique pas d'être le même. On est divers, comme en Italie, Milan est divers de Rome ou de Naples. Mais on doit avoir un terrain commun. Et si je juge de livres, c'est encore trop faible, ce terrain commun. Si je vois la liste de best-sellers du Nouvel Observateur de Repubblica ou de El País, le livre commun sont les Américains ou Harry Potter, c'est les anglo-saxons. Mais il y a des best-sellers français ou italiens ou allemands qui n'arrivent jamais dans les autres pays, qui sont pas lus, même peut-être traduits, mais sauf Umberto Eco, qui est traduit, c'est un best-seller au Saviano, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est un problème. Le problème de créer, et je crois que le festival Rome Europe, c'est une initiative remarquable, parce qu'on doit créer un langage commun. On veut continuer à parler chacun sa langue, et ça, c'est juste, mais on doit trouver un langage culturel commun. Sinon, l'Europe politique ne va pas se créer. En Amérique, ils considèrent qu'il y a un droit qui s'appelle « give back », les riches, fait des donations aux pauvres, parce qu'ils sont ils sont amiables. En Europe, c'est un droit public, c'est l'État qui le fait. Le welfare state, c'est une invention européenne, et c'est notre identité. L'identité, c'est dire que tout le monde a un droit d'un minimum, et dans la crise, la pandémie, c'est en question. En Italie, le nombre de pauvres, et je suspecte aussi en France, est énormément augmenté. Et alors, quand on parle de la condition du pays, on ne doit jamais oublier que dans la Constitution italienne, il y a une valeur centrale, qui est la dignité de la personne. Et si je descends au-dessus d'une certaine possibilité, je perds ma dignité. Et c'est pour ça que tous nos efforts vont concentrer sur ça, je crois, dans les prochaines années. Parce que sans avoir, quand un pays a 5 millions, 6 millions, 7 millions de personnes qui vivent d'au-dessus, c'est pas un pays civilisé, c'est pas un pays européen.
Moi, je passe toujours, je suis perçue comme ultra-libériste, etc. Bah, moi, vraiment, je suis libérale à la Beveridge, je le dis 40 fois, et c'est vrai que l'Europe, c'est le seul continent qui a une politique sociale, hein, et degli ammortizzatori sociali. Si vous regardez, ça n'existe pas aux États-Unis, ça n'existe pas en Russie, ça n'existe pas en Chine, et ça n'existe pas en Afrique ou en Amérique centrale. C'est ce que je répète aux jeunes qui ne sont jamais assez contents, etc., etc., mais que c'est le seul continent au monde que je connaisse qui a une assistance sanitaire et même trop de pensions, disons, que je sache.
Fabrizio Di Frati. Je voudrais aussi souligner que le monde culturel, dans un moment très très difficile, par exemple, spécialement pour le spectacle vivant, comme pour les musées d'ailleurs, pendant la pandémie, a reçu par les différents États, pas par tous les États même, dans la même façon, mais moi je réfère ici à la France et à l'Italie aussi, un soutien qui était un soutien très important. Les États, l'État français, l'État italien ont maintenu les subventions à les compagnies, au théâtre, à les opéras, aux musées en termes de manque de billetterie. Les régions et les mairies ont fait de même. Les deux États, par exemple, ont mis en place des plans spéciaux de soutien. Cela a été très très important. Et je dirais surtout dans un pays comme l'Italie qui n'a pas le même régime d'aide comme en France. En France, vous avez l'intermittence des travailleurs du spectacle. L'Italie n'a pas cet incroyable soutien. Eh bien, ça, c'est exactement ce que Mme Bonino vient de dire, c'est-à-dire une tradition et un héritage d'États qui sont à côté des citoyennes. Peut-être qu'ils ne le font pas bien. Sûrement, on peut améliorer. Sûrement, il faut faire attention à la dette. Mais dans les moments difficiles, c'est très important.
Éric Joseph, il y a en ce moment un gouvernement italien incroyablement pro-européen, puisque tous les partis, même ceux qui étaient très anti-européens, soutiennent ce gouvernement de Mario Draghi, de fait très européen. Alors, ça demande une petite explication. Comment des partis qui étaient très anti-européens soudain soutiennent un gouvernement très très européen? Ça demande une petite explication qui est toujours un peu compliquée pour un non-italien.
Alors, le parti en question, c'est la Ligue de Matteo Salvini, qui a été effectivement, qui a mené des campagnes pour il y a quelques années pour sortir de l'euro, qui a toujours stigmatisé l'Europe et qui a décidé de faire partie de la large majorité, presque d'Union nationale. Il n'y a qu'un grand parti qui soit à l'extérieur de cette majorité de Mario Draghi, c'est Fratelli d'Italia, le parti post-fasciste de Giorgia Meloni. Et donc, effectivement, la Ligue a décidé de participer à ce gouvernement, je pense, pour deux raisons. Une raison politique, elle était un petit peu en perte de vitesse, mais surtout, la grande raison, c'est qu'il fallait notamment participer aussi à ce plan de redistribution qui arrive de l'Europe, et notamment, la Ligue est très implantée dans le nord de l'Italie, qui est la partie la plus productive du pays. Et effectivement, la Ligue étant la représentante, en quelque sorte, d'une bonne partie de ces milieux économiques et de cette classe productive, il fallait en quelque sorte qu'elle participe à cette organisation de la répartition des fonds.
Est-ce que ça veut dire c'est un soutien très utilitaire?
Oui, absolument. Oui, c'est absolument très utilitaire.
Emma Bodino.
On a... pas seulement Salvini qui sont rapides au changement et rapides au retour. Et moi, que j'avais fondé, ça fait 4 ans, un parti politique plus Europe, pour être clair, où est-ce que nous voulions aller, apparemment, ces jours-ci, j'ai perdu mon core business. Parce que tout le monde est européiste.
Et plus que vous, presque, officiellement.
Non, plus que moi, je vous dis, la dernière intention... intervention de Salvini au Sénat, c'était embarrassant pour lui et excessif pour moi. Imaginez-vous à quelle situation on est.
Mais ça, cela a évité et a permis de baisser les tons en termes de xénophobie, en termes de polémique inter-européenne.
Exactement.
Et je pense que c'est un bien, cela.
Oui, oui, non, mais c'est bien. Mais moi, je suis toujours contente quand les adversaires rejoignent mes positions. S'ils ont des contradictions, c'est à eux, c'est pas à moi. Sur l'Europe, certainement, mais j'espère sur d'autres sujets aussi.
Alors, Éric Jousset, je disais que dans mon introduction que le pays était en suspens, c'était l'idée qu'il pouvait, compte tenu de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale, mais très fragile, enfin, qui peut basculer du jour au lendemain, le pays peut basculer d'une tendance très européenne à finalement une tendance très nationaliste, avec un grand repli sur lui-même. Le parti d'opposition Frère d'Italie est un parti post-fasciste, alors pour le coup très anti-européen, très anti-immigration, très anti-tout, et il a déjà 20% des voix, et il pourrait former lui aussi, lors des prochaines élections prévues, je crois, en 2023, un retournement d'un gouvernement un peu à la Salvini, encore peut-être plus féroce.
Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a ce plan européen qui va quand même, pendant quelques mois, un peu calmer les choses. Mais c'est vrai que dans les sondages, il y a un paradoxe. On a un gouvernement qui est effectivement représenté par Mario Draghi, difficilement de faire plus européen. Une majorité qui affirme donc son engagement européen, qui relance aussi l'Europe sur certains dossiers. Et en même temps, dans les sondages, on voit que les deux partis de la droite radicale et de l'extrême droite sont à 40%. Et donc effectivement, on est effectivement dans une situation un peu en suspens qui est due à la période du Covid, à la volonté justement d'accompagner ce plan européen, et puis parce que aujourd'hui pas grand monde n'a envie de retourner aux élections. D'ailleurs, les Italiens n'auraient pas compris un retour aux élections, et notamment les partis politiques qui ont gagné les élections en 2018. Il y a eu une recomposition radicale, et notamment le parti qui avait triomphé en 2018, le mouvement 5 étoiles, est aujourd'hui en grande perte de vitesse. Et donc, il y a une certaine sorte de stabilité, de moment un petit peu de suspens, c'est sans doute la parole le plus juste, où en quelque sorte on a une parenthèse où effectivement Mario Draghi va devoir sans doute utiliser cette parenthèse pour faire les réformes que l'Italie n'a pas faites pendant des décennies. Alors il a un avantage pour faire ça, c'est que justement il y a ce soutien financier qui devrait permettre en partie de faire des investissements et d'amortir socialement les transformations.
Sam Stourdé, vous êtes le directeur d'une Villa Médicis à Rome, d'un pays en suspens, vous le saviez ?
Oui, mais à la fois, c'est bien dans ces périodes de crise, parfois de suspens, que les choses émergent en termes de création artistique les plus intéressantes. Et vous évoquiez le lieu comme un laboratoire. À n'en point douter, Rome est aussi un laboratoire artistique.
Alors, en attendant, l'exposition des pensionnaires de la villa vient d'ouvrir. Tout le monde peut la visiter ?
Absolument. L'exposition sera ouverte tout l'été. C'est même trois expositions qui accueilleront cet été les visiteurs. Echo, l'exposition des pensionnaires. Mircea Cantor, cet artiste roumain vivant en France et qui vient créer à la Villa Médicis. Et puis les enfants terribles de l'art contemporain, Maurizio Cattelan et son collectif Toilet Paper, et Martin Parr, le photographe anglais, qui envahissent tout l'été les jardins de la Villa Médicis.
Sam Stourdé, merci de nous avoir accueillis dans votre très belle villa, la Villa Medici de Rome, l'Académie de France à Rome, hein, c'est le mot officiel. Merci à tous les cinq d'avoir été au Carrefour de l'Europe, Emma Bonino, Giuseppe Laterza, Fabrizio Grifazzi et Éric Joseph. Réalisation Guillaume Munier avec Beniamino Morand de Corrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur la Villa Medici et sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique podcast. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquel, où que vous soyez, à Paris, à Rome, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
RFI, chez vous au quotidien.